Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Aujourd'hui, dans notre série Europa Voice, on va parler de l'extension du pass sanitaire en France, l'extension qui a été votée dimanche dernier. On fera aussi un point complet sur l'actualité sportive, notamment celle des Jeux Olympiques, bien sûr. Et puis, comme tous les jeudis, on fera également le point sur les infos éco en Australie. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. Les principales actualités de ce jeudi 29 juillet 2021. Un record de nouveaux cas de Covid en Nouvelle-Galles du Sud, où après avoir prolongé le confinement, les autorités annoncent aujourd'hui un nouveau durcissement des restrictions. Aux États-Unis, le maire de New York offre $100 à tout habitant qui accepte de se faire vacciner. Enfin, en Polynésie française, le président Emmanuel Macron a achevé son déplacement sur une déclaration concernant les essais nucléaires pratiqués par le passé dans cette région du monde. Il a reconnu que l'État français avait une dette à l'égard des Polynésiens. Le ciel s'assombrit en Nouvelle-Galles du Sud avec un nouveau record de cas quotidiens annoncé aujourd'hui, 239 nouveaux cas de transmission locale. C'est du jamais vu depuis l'apparition de ce foyer épidémique. Après avoir annoncé mercredi le prolongement du confinement pour un mois supplémentaire, Gladys Berejiklian a encore durci les règles jeudi matin en annonçant que pour les habitants des 8 quartiers déjà soumis à des restrictions plus drastiques que le reste de la ville, le périmètre des déplacements était désormais limité à 5 km autour de chez eux.
It doesn't matter what the reason is. Unless there are exceptional circumstances, you have to make sure you do not move within a 5 km radius of your home. It doesn't matter whether it's for shopping, it doesn't matter whether it's for other exercising that you're allowed to leave the house from. You can't move beyond a 5 km radius, and that includes singles bubbles. If you want to have a singles bubble in a local government area of concern, you cannot have anybody move, or you can't move within 5 km of where you live.
Par ailleurs, pour ces 8 quartiers de l'ouest de Sydney, le port du masque devient obligatoire en toutes circonstances dès vendredi et donc pas seulement dans les lieux clos. En cas d'infraction, vous risquez une amende de $500. Le prolongement du confinement, bien sûr, ne fait plaisir à personne, mais la maire de Shell Harbour, Marianne Saliba, le vit sans doute plus mal encore que d'autres, puisqu'elle l'a rappelé à nos confrères d'ABC, sa ville est entrée en confinement voilà maintenant plus de 4 semaines, et ce alors qu'aucun cas n'avait été signalé sur sa commune et qu'aucun autre n'est apparu depuis.
We've had no cases, no traces, no venues, we still have none. And I don't know what the Premier wants from us. Is it minus one? Dapto is in the city of Wollongong, not in the city of Shell Harbour. And we can still have restrictions. Nobody's saying open up the floodgates and let everybody in or out. But the people of Shell Harbour should have a right to be able to move around their community freely when there is no transmissions.
Hier, mercredi, au-delà du prolongement du confinement, il a également été annoncé l'instauration d'une bulle pour les célibataires. Gladys Berejiklian y faisait référence à l'instant. Elle signifie, cette bulle, que tous les célibataires qui vivent seuls à Sydney peuvent nommer une personne avec laquelle ils peuvent passer le confinement. Ils peuvent également se rendre dans leur domicile respectif. Et pour le docteur Grant Blaschke, un spécialiste des questions de santé mentale, cette tolérance en l'état actuel de la situation est indispensable.
During the lockdown, if you're on your own, there's a lot of hours in the day just in your own thoughts to occupy yourselves. And we know from the research that having company dealing with that loneliness is really good for your mental health and, interestingly, also good for your physical health. So we're delighted to see that people have the opportunity to be able to connect with someone, especially for those who are isolated at the moment.
Rappelons également qu'hier, il a été annoncé que les étudiants de Nouvelle-Galles du Sud en Year 12, c'est-à-dire la dernière année de lycée, vont être vaccinés en priorité avec le vaccin Pfizer, et ce, afin de permettre leur retour en classe qui est prévu le 16 août. À peine 2 mois après avoir été levée, l'obligation du port du masque aux États-Unis est de retour, en tout cas dans les lieux clos situés dans des zones à risque, et ce, malgré le fait que 69% de la population adulte aux États-Unis est complètement vaccinée contre le Covid-19, un seuil élevé mais qui ne permet pas pour l'instant d'empêcher la propagation du variant Delta dans certaines régions. Pour Radio France Internationale, Anne Corpet.
L'affichette indiquant l'obligation de porter le masque est de retour à l'entrée de la Maison Blanche et des bâtiments publics de Washington. La vaccination reste efficace, mais le CDC, le Centre de prévention contre les maladies, fait part de son inquiétude. En de rares occasions, les personnes immunisées peuvent transmettre le virus à celles qui n'ont pas reçu leur dose de sérum. Selon les chiffres du CDC, le nombre d'infections est en forte hausse, notamment dans le sud du pays, majoritairement républicain et hostile à la vaccination. Le retour du masque a aussitôt été dénoncé par Donald Trump. On ne reviendra pas en arrière, on n'imposera pas le masque à nos enfants, a tempêté l'ancien président. Son fidèle allié, le chef de la majorité républicaine à la Chambre, lui a emboîté le pas. C'est une consigne imaginée par des responsables gouvernementaux libéraux qui veulent continuer à vivre dans un état de pandémie perpétuelle, a déclaré Kevin McCarthy. Mais les faits sont là. Les contaminations augmentent sur 90% du territoire américain. Anne Corpet, Washington, RFI.
Et pour pousser ses administrés à se faire vacciner, le maire de New York vient lui d'annoncer qu'il offrait $100 à tout habitant qui viendrait se faire vacciner sur l'un des sites gérés par la municipalité. Bill de Blasio, le maire de New York, a fait valoir qu'en plus des $100, l'intérêt pour les personnes qui se font vacciner, c'est de pouvoir faire à nouveau à peu près tout ce qu'ils souhaitent.
Starting on Friday, we will provide at city-run vaccination sites. When you get your first dose of the coronavirus vaccine, when you get your first dose, you will get a $100 incentive. $100 for any New Yorker who goes to a city-run site, get vaccinated. Not only do you get the $100, you then qualify to be able to do everything else that's wonderful in this city, including the amazing concerts coming up.
Il s'agit du plus lourd bilan depuis la fin de la guerre du Karabakh à l'automne dernier. Mercredi, 3 soldats arméniens ont été tués au cours d'affrontements avec des militaires azerbaïdjanais. On fait le compte-rendu avec Vincent Sourio de RFI.
L'accrochage s'est tenu dans la région de Kelbajar, l'un des 7 districts rétrocédés par l'Arménie après sa défaite militaire de novembre 2020. Qui a lancé les hostilités? 2 versions s'opposent. D'après les autorités arméniennes, c'est une offensive des forces azerbaïdjanaises qui a mis le feu aux poudres et entraîné plusieurs heures de combat. Faux, répond l'Azerbaïdjan, nous n'avons fait que riposter après des tirs de lance-grenades et de mortiers ciblant nos positions. Malgré le cessez-le-feu signé entre les 2 voisins sous l'égide de la Russie, les 2 camps sont encore à couteau tiré, s'accusent mutuellement de pousser à l'escalade et la tension n'a cessé de monter ces dernières semaines. La paix reste très fragile et elle n'a tenu jusqu'ici que grâce à la médiation russe. La diplomatie de Moscou est de nouveau intervenue ce matin pour trouver une voie de sortie pacifique après une nuit de violence qui risquait de dégénérer.
Au Pérou, on célébrait hier le bicentenaire de l'indépendance. Par ailleurs, un nouveau président a également été investi. Il s'agit de Pedro Castillo. Il s'est engagé à mettre fin aux profondes inégalités qui frappent la société péruvienne, et ce, depuis l'époque coloniale. Pedro Castillo est un ancien instituteur. Il a également été représentant syndical et il est issu d'une famille extrêmement pauvre d'agriculteurs. Il a remporté la dernière élection présidentielle face à Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, avec une très courte avance, à peine 44 000 voix. Au dernier jour de son déplacement en Polynésie française, Emmanuel Macron a refusé de s'excuser pour les essais nucléaires pratiqués par le passé par l'armée française. En revanche, il a reconnu que l'État avait une dette à l'égard des Polynésiens. À Papeete, le reportage de Julien Chavanne pour RFI.
Exactement, il a fallu attendre la 42e minute de son dernier discours dans la grande cour de la présidence du gouvernement polynésien devant plusieurs centaines de personnes, collier de fleurs autour du cou, le chef de l'État lâche des mots forts.
Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Trop longtemps, l'État a préféré garder le silence sur ce passé. Ce que je veux briser aujourd'hui, c'est ce silence. Et je veux la vérité et la transparence avec vous.
Vérité et transparence, hein, cela passera par l'ouverture des archives militaires, ce qui devrait permettre aux Polynésiens de connaître la localisation précise des essais. Autre promesse, une meilleure indemnisation et le nettoyage des terres polluées avant la fin du quinquennat. Faites-moi confiance, il faut du temps, demande Emmanuel Macron. Un mot n'a pas été prononcé, le mot « excuse ». Les associations de victimes le réclamaient sans trop y croire. Le chef de l'État n'est pas allé jusque-là. Il a même reconnu qu'il ne savait pas si, comme le général de Gaulle, il aurait lui aussi lancé ou non des essais nucléaires ici en Polynésie française.
Pour finir, on jette un œil à la météo de ce jeudi en Australie. 20 degrés à Perth, 16 à Adelaide, 16 aussi à Melbourne, 18 à Sydney, 25 degrés à Brisbane et 33 à Darwin.
Des sports de ce jeudi avec tout d'abord les JO de Tokyo, natation, vous l'avez entendu avec Grégory tout à l'heure dans le journal pour les résultats du 200 mètres papillon et le 100 mètres nage libre. Et tout à l'heure le 200 mètres brasse et c'est l'Australien Zach Stableti-Cook qui a gagné l'or, le 800 mètres nage libre et c'est l'Américain Robert Fink qui a remporté la médaille d'or. Hier, mercredi, l'or pour Ariane Titmus, l'Australienne, à nouveau, et cette fois pour le 200 mètres nage libre. Le Hongrois Christophe Milak a pris l'or pour le 200 mètres papillon. Le 1500 mètres nage libre remporté par Kathy Ledecky, l'Américaine, sa première victoire en or à Tokyo. Le 200 mètres 4 nages féminin remporté par la Japonaise Yui Ohashi. Et le 4x200 mètres, le relais du 4x200 mètres masculin. Et ce sont les Australiens qui ont gagné la médaille de bronze. Et puis, l'Australie a aussi remporté deux médailles d'or, une pour les 4 hommes et une pour les 4 femmes dans la compétition d'aviron, 4 de pointe sans barreur. Cyclisme sur route, le contre-la-montre individuel homme et Ron Dennis, l'Australien, a remporté le bronze hier. Le Slovène Primož Roglič a gagné la médaille d'or et Tom Dumoulin, le Néerlandais, a pris la médaille d'argent. Les Français Mathieu Andre-Dias et Hugo Boucheron, eux, ont gagné l'or pour l'aviron, la troisième médaille d'or pour la France. Handball, les Français se sont qualifiés pour les quarts de finale et ils joueront l'Espagne demain. Basketball, deux matchs et deux victoires pour les Français et une place en quart de finale est assurée. On passe au football avec les tricolores, eux, qui ont été éliminés de la compétition battue par les Japonais 4-0 hier. Et les Australiens, les Hollyroos, prennent la porte de sortie également battue par l'Égypte 2-0. Les Australiens auraient fallu un match nul pour se qualifier pour les quarts de finale. Mardi, la judoka française Clarisse Agbenenyu a décroché la médaille d'or en moins de 63 kilos. On écoute sa réaction.
C'est des lames de soulagement, de travail, de famille éloignée, mais proche en même temps, de tous les encouragements que j'ai pu avoir, de porte-drapeau. C'était la pression que j'ai relâchée, mais c'est incroyable. J'arrive pas à imaginer et j'ai hâte aussi d'aller au Togo, de célébrer. Là, j'aurai le temps pour moi, enfin. Et j'aurai le temps avec le sourire, c'est encore mieux.
Quel chemin, hein. 5 ans et vous l'avez, cette médaille d'or. Ça valait la peine, tout ça.
Je l'ai. J'ai tellement rêvé, tellement pensé. Je me suis dit, c'est beau d'y rêver, mais il faut aller la chercher. Et là, je l'ai enfin. Je suis fière. Je suis tellement fière de moi. Je suis tellement fière des personnes qui m'ont tirée, soutenue. Merci énormément. J'ai hâte d'aller voir ma famille, de leur montrer, de leur raconter. C'est magnifique.
Et à Paris, au village olympique du Trocadéro, c'était la fête, comme nous l'explique Julien Panafieux pour Radio France Internationale.
Malgré une météo peu clémente, des dizaines de supporters sont venus au village olympique du Trocadéro. Des ondes positives à destination du Budokan pour soutenir Clarisse Agbeninou dans la quête de sa médaille d'or. Tout le monde est attentif face à l'écran géant quand tout d'un coup, la délivrance.
Non seulement elle le méritait, elle a un très beau parcours, et puis c'est aussi un peu la relève, donc moi j'ai pas fait de judo, mais on s'est passionné pour Clarisse.
Ah bah c'est super, on est venu exprès aujourd'hui sous la flotte, mais pour l'avoir gagné c'était le plus important. Les Jeux Olympiques c'est l'occasion de suivre plein de sports, donc le judo comme les autres, et là une médaille d'or c'est impeccable.
De passage au village, Samuel Kistori, de retour du Japon, et Alain Bernard ont eux aussi un message pour la nouvelle championne olympique.
Elle a pris la revanche sur 2016, et franchement elle a fait une très belle perf, et je la félicite, et franchement c'est un des gros coups de cœur d'aujourd'hui.
Félicitations, bravo Clarisse, c'est extraordinaire voilà, de nous faire rêver, d'aller chercher cette médaille. Elle avait annoncé, elle a su s'adapter par rapport voilà, à cette pandémie.
Comme tous les athlètes de retour de Tokyo, Clarisse devrait se rendre au village olympique dans les jours qui viennent et présenter au pied de la Tour Eiffel sa nouvelle médaille d'or.
Taekwondo, la Française Althea Lorrain a décroché la médaille de bronze pour les plus de 67 kilos. Triathlon, la Bermude a remporté sa toute première médaille d'or mardi grâce à la performance de Flora Duffy. La Française Léonie Perriot est arrivée à la 5e place. L'Américaine Carissa Moore est devenue mardi la première championne olympique de surf de l'histoire. Le Brésilien Italo Ferreira sacré chez les messieurs. VTT cross-country chez les dames, la Suisse à l'honneur avec 3 podiums. En or, en argent et en bronze mardi. Et puis la triste nouvelle, la gymnaste américaine Biles se retire de l'épreuve de concours général individuel ce jeudi, après avoir annoncé mardi qu'elle se retirait de l'épreuve par équipe pour gérer sa santé mentale. Olivier Pron, Radio France Internationale.
Simone Biles a craqué, impressionnante à Rio il y a 5 ans, la voilà impressionnée. Comme Naomi Osaka récemment ou Marie-Josée Pérec il y a 20 ans aux Jeux de Sydney. Trop de pression pour ce petit bout de femme d'1m42, invaincue en concours général de gymnastique depuis 2013 et son premier titre mondial à 16 ans. Un saut de cheval manqué hier et la voilà qui se retire de la compétition tout en restant pour encourager ses coéquipières, finalement deuxième derrière les Russes. Je dois faire face à mes démons, je n'ai plus autant confiance, dit-elle. Cette confiance, sa force, forgée entre une enfance difficile avec une mère alcoolique et droguée et les agressions sexuelles du médecin de l'équipe américaine de gymnastique. Un moral d'acier qui avait permis à celle qui se considère comme une survivante de glaner 4 titres olympiques à Rio et d'en viser 6 autres à Tokyo. Simone Biles, 24 ans, propulsée plus grande gymnaste de l'histoire, veut prendre les jours les uns après les autres.
Et puis, mardi, la japonaise Naomi Osaka a été éliminée au JO. Marie-Amélie Motte, RFI.
Et oui, la japonaise a sombré à domicile dans un stade vide. Défaite 6-1, 6-4 en à peine plus d'une heure contre la tchèque Markéta Vondrousova. Osaka a perdu son service d'entrée et n'a jamais réussi à reprendre le dessus. À 23 ans, elle faisait son retour à la compétition après 2 mois d'absence. Les JO étaient censés être le point d'orgue de sa saison. La numéro 2 mondiale s'était retirée de Roland-Garros fin mai après avoir refusé d'apparaître devant la presse pour préserver sa santé mentale. Elle avait ensuite déclaré forfait pour Wimbledon. Naomi Osaka, c'est une véritable star au Japon. Elle était très attendue dans son pays natal, elle qui vit à Los Angeles, aux États-Unis. Et le tableau féminin de Tokyo est désormais orphelin de ses 3 premières têtes de série, puisque la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty et la numéro 3 Aryna Sabalenka avaient déjà été éliminées.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Voilà, et pour compléter ce journal des sports, quelques informations supplémentaires qui sont tombées il y a seulement quelques minutes. Tout d'abord, le 200 mètres papillon dames, c'est la chinoise Zhang Yufei qui décroche la médaille d'or. Et puis, quelques minutes après, on a eu aussi le 100 mètres nage libre côté homme. Et là, c'est un Américain qui remporte la première place. Il s'agit de Caleb Dressel. Il est suivi de très près par l'Australien Kyle Chalmers, pour qui c'est donc médaille d'argent. Et une déception assez terrible pour le Français Maxime Grousset, qui avec à peine 3 dixièmes de retard sur le Russe Kolesnikov, voit la médaille de bronze lui échapper. Il termine au pied du podium en 4e position.
Comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpic pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
On parle du confinement dans l'ouest de Sydney qui pourrait avoir un effet économique sur le reste du pays.
Oui, exactement. Donc, en fait, cette partie du pays, cette partie de Sydney a un rôle très important dans l'économie australienne parce que les travailleurs essentiels dans l'ouest de Sydney font en fait partie de l'infrastructure nationale essentielle. Donc, il y a un effet sur tout le monde. Et on sait bien que le confinement là à Sydney va durer encore 4 semaines. Donc, c'est un effet qui va vraiment durer. C'est un endroit là, à l'ouest de Sydney, qui compte plus de travailleurs que Perth et Adélaïde. Donc, c'est vraiment très énorme. Et par exemple, on regarde quelque chose comme Woolworths, un des grands supermarchés en Australie. Et là, ils ont, c'est assez essentiel pour eux, pour leur infrastructure, pour envoyer les cartons de courses, les produits un peu partout autour de l'Australie, parce qu'à peu près 9 millions de cartons de courses sont envoyés de leur centre en Nouvelle-Galles du Sud. Et donc ça compte pour 30% de toutes les livraisons, de leur livraison autour du pays, pour fournir 1000 supermarchés de Woolworths. Et c'est à Yennora, qui est un centre donc entre Fairfield et Cumberland, et un autre à Minchinbury, à Blacktown, où il y a ces grands centres de distribution de Woolworths. Donc, tant qu'il y a ces confinements et les restrictions, ça peut avoir un effet là-dessus, si les gens-là ne sont pas comptés comme travailleurs essentiels. Mais ce n'est pas juste Woolworths, il y a aussi Aramex, qui a leur grand centre à Chullora. Et ça, c'est un service d'envoi express pour les colis urgents. Et donc, eux, ils reçoivent des colis de l'international et ils les envoient partout dans l'Australie. Ailleurs, il y a aussi, dans cet endroit à Chullora, il y a aussi Australia Post avec plus de 1000 employés. Et de là, ils envoient 500 000 colis tous les jours. Donc, c'est assez vraiment étonnant. C'est des dépôts très, très, très importants pour la distribution des biens autour de l'Australie, vraiment. Donc, c'est quelque chose qui a été un peu inquiétant quand, au début, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a dit que, pas tous ces gens-là étaient des travailleurs essentiels. Maintenant, ça a l'air d'être réglé. Mais quand il y a à peu près 12 millions de travailleurs dans cette région, ça fait un centre économique vraiment très important pour le pays.
Et puis, le secteur privé propose des solutions pour trouver des hébergements, des maisons pour les sans-domicile fixe.
Oui, voilà, mais pas juste les sans-domicile fixe, mais aussi, par exemple, des familles qui ont du mal à trouver du logement, parce que les taux sont très élevés en ce moment dans certaines parties du pays, donc ça devient très cher pour louer un appartement ou une maison. Il y a des gens qui se trouvent dans des conditions de risque, avec beaucoup d'incertitudes, ou sinon des femmes qui eux peut-être échappent à la violence domestique. Donc c'est trouver des solutions, trouver de l'aide, des maisons, des appartements, des endroits où ils peuvent habiter. Et les gouvernements c'est vraiment à eux la responsabilité de trouver ce qu'on appelle du social housing ou affordable housing. Mais bon, il y a toujours un manque énorme. Et là, on voit, par exemple, au Victoria, en Australie occidentale, ailleurs, il y a le secteur privé qui propose des solutions. Par exemple, il y a un programme où ils trouvent des terrains qui appartiennent au gouvernement ou à l'église et ils font un accord avec eux pour payer un minimum de loyer. Et avec l'aide du secteur privé et du bénévolat, ils construisent des maisons. Et là, ça devient, par exemple, des maisons pour des femmes qui sont en situation de risque. Ou une autre chose qui se passe, c'est que il y a des organisations dans le secteur privé qui cherchent des bâtiments résidentiels qui sont pas utilisés parce que le propriétaire attend de redévelopper l'immeuble et ils attendent tous les accords gouvernementaux, etc. Et entre-temps, ils demandent s'ils peuvent utiliser ça pour justement des logements d'urgence pour des gens voilà qui ont sans domicile fixe ou qui des femmes qui essaient de d'échapper d'un partenaire violent et ça devient donc une façon de trouver du logement rapidement et pas cher en attendant que le gouvernement construise plus de logements pour les gens pour les sans domicile fixe et d'autres gens en Australie. Donc c'est intéressant de voir comment le secteur privé trouve des solutions en attendant le gouvernement.
Voilà, merci Nicolas pour cette analyse. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode aujourd'hui d'Europa Voice. Comme d'habitude, on est avec Nathanaël Bloch. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors Nathanaël, aujourd'hui on va parler du pass sanitaire, ou plus exactement de l'extension du pass sanitaire qui a été voté dimanche soir en France dans sa version définitive. Ce pass sanitaire, au final, à quoi il va ressembler ?
Alors déjà, qu'on peut dire d'abord comme premier élément, c'est que évidemment, par rapport aux annonces très fortes du président Macron, on a un texte qui est un peu plus, peut-être qu'on peut le qualifier de rationnel, ou en tout cas un texte un peu moins clivant. On l'a vu, hein, au fur et à mesure de cette navette législative, on a eu quelques éléments de ce texte, de cette première mouture, qui ont été enlevés, ou en tout cas qui ont été un petit peu polis. Et donc, on se retrouve maintenant avec un texte qui va devoir être appliqué dans les prochains jours par l'ensemble des Français.
Alors oui, effectivement, le texte a été un petit peu revu pour, en quelques mots, revenir sur le discours d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier où il avait annoncé l'extension de ce pass sanitaire. On avait des mesures, effectivement, j'ai envie de dire, à l'australienne, avec des peines de prison, des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les contrevenants. Ça a été en partie brossé, déjà parce qu'il y a beaucoup d'opposition, malgré tout, en France. Je crois que plus d'un tiers de la population, d'après les sondages, y est opposée. Et on a eu d'ailleurs, comme en Australie, mais avec une ampleur beaucoup plus importante, des manifestations ce week-end et le week-end dernier également, alors qu'on est en plein juillet, période de vacances. Et c'est assez rare quand même.
C'est rare, mais c'est difficile de sortir les Français de France. Hein, donc, on s'attendait quand même à avoir ces manifestations. Ce qui me semble aussi important de préciser, dans cette comparaison France-Australie, c'est qu'en France, il faut bien distinguer deux débats. Il faut bien distinguer l'obligation vaccinale et la campagne de vaccination elle-même de l'introduction et de la généralisation d'un pass sanitaire qui donc met certains jalons, ou en tout cas certaines limites aux libertés de mouvement, de circulation et de rassemblement. Je pense que c'est important de préciser ces choses-là parce que dans les manifestations qu'on a vues, on a aussi eu des fois une confusion entre des slogans qui étaient contre l'obligation vaccinale elle-même. Alors, je prends un exemple. Après l'adoption de ce texte, on a une obligation vaccinale pour les soignants. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été voté. Pour les soignants, ils doivent forcément être vaccinés. Mais on n'a pas d'obligation vaccinale pour le reste de la population. Par contre, si on va sur le terrain du pass sanitaire lui-même, dans l'accès aux lieux publics, dans un certain nombre de lieux publics, cinéma, restaurants et encore d'autres, là, on a une obligation de présentation de ce pass sanitaire, j'allais dire, quel que soit votre rôle, votre fonction dans la société. Et ça me semble important, hein, de bien différencier ça, parce que ça va être aussi, en termes de communication, un vrai effort de pédagogie de la part du gouvernement, de bien faire la part des choses et de bien expliquer, en fait, ce qui va ressortir d'une obligation vaccinale, de ce qui va ressortir d'une obligation de présenter un pass sanitaire. Par rapport à l'Australie, je pense, et là, je fais un peu mon cocorico, mais qu'en France, on a quand même déjà un temps d'avance sur ce débat-là, et on arrive vraiment un petit peu à, j'allais dire, sortir la tête de l'eau par rapport à où est-ce qu'on en est dans la vaccination et où est-ce qu'on en est finalement dans l'après-Covid. Alors qu'en Australie, on est quand même à des temps très, très en amont encore, où finalement, on les changeait un peu hors antenne, hein, les gens qui manifestent, on ne sait pas trop bien encore pourquoi ils manifestent, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une distinction entre obligation vaccinale versus passe sanitaire.
Ouais. Alors, pour revenir sur ce passe sanitaire, on vient de parler de ceux qui le critiquaient, qui étaient opposés. Cette version finalement votée par le Parlement, elle a donc enlevé un certain nombre des mesures les plus chocs qui avaient été annoncées par le président. Et du coup, parmi ceux qui le soutiennent, il y en a qui pensent qu'il a été un peu vidé de son sens et qu'au final, il ne sera pas aussi efficace qu'on l'attendait.
Alors c'est difficile, hein, de lire dans les boules de cristal. Moi, je crois surtout ça a permis aussi de clarifier des choses ou qui auraient pu être des motifs de tension. Et je crois que c'était vraiment une volonté aussi du législateur. Là, je ne parle pas que du gouvernement, je parle vraiment de la représentation nationale. Par exemple, sur le motif de licenciement. C'est-à-dire qu'on arrivait presque à un débat où le fait de ne pas se conformer, pardon, à une obligation vaccinale ou même de présenter un pass sanitaire pouvait faire que c'était un motif légitime de licenciement, avec tout ce que ça peut impliquer aussi comme modification du code de travail, du rapport de force, de la relation salarié employeur, etc. Donc par exemple, ça, c'était vraiment une grande inquiétude de personnes qui ne sont pas forcément, et c'est important de le préciser, on peut être, et en France on a vu, hein, quelques voix prendre cette direction, on peut être totalement pour l'obligation vaccinale, mais vouloir borner l'application du pass sanitaire et ses effets. Donc par exemple, ça, c'est un gros poids, j'allais dire, qui a été enlevé du débat, c'est que ça ne va pas devenir un motif de licenciement. Ensuite, on a un tas d'autres mesures, j'allais dire, qui ont été votées, discutées et finalement adoptées. Par exemple, dans les centres commerciaux, on va avoir un pass sanitaire qui ne sera pas exigé à l'intérieur de ces centres commerciaux. Certainement pour des raisons, Grégory, plus de praticité et de modalités de vérification qui seront impossibles, parce que un des objets de débat aussi, c'est au commerçant, c'est au restaurateur de vérifier l'identité d'un client, ou est-ce que c'est un pouvoir qui doit appartenir à la police, par exemple. Et donc on a comme ça tout un tas d'accommodements. Pareil, on a eu tout un débat sur l'école et l'obligation vaccinale, le pass sanitaire pour des mineurs. Donc vous voyez, on est vraiment en train de maintenant voir point par point pour que cette mesure, pour qu'il y ait une acceptabilité de cette mesure. La vraie question sous-jacente et derrière ça, c'est à partir de quel moment est-ce que on est d'accord de restreindre la liberté? Et surtout, est-ce qu'à partir de quel moment on peut montrer que on a, et là je reprends les mots de la commission de la CNIL, hein, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, où on a la présidente Marie-Laure Denis qui avait été auditionnée par Sina, qui avait dit est-ce que cette atteinte aux libertés, est-ce que elle ne peut être admise que si l'État peut démontrer que le surplus d'efficacité qu'apporte le pass sanitaire apparaît nécessaire. Et donc maintenant on est vraiment j'allais dire, ce débat qui est assez sain, en fait, pour la démocratie, c'est comment est-ce qu'on borne ce pass sanitaire pour montrer que les mesures qui en découlent apportent plus de bénéfices que de mal aux autres grands principes qui régissent la vie en collectivité en France.
Donc en tout cas, on verra dans les semaines à venir comment concrètement sur le terrain ça se passe avec ce pass sanitaire. Ce qui est sûr, c'est que ça a eu d'une certaine manière l'effet escompté, c'est-à-dire que ces derniers jours, on a eu vraiment un pic du nombre de rendez-vous pris pour des vaccinations. Les vaccinations en France qui étaient retombées à un niveau un peu plancher et qui sont reparties à des niveaux très très élevés, 800-900 000 vaccinations par jour. Et je voyais qu'on a passé maintenant le cap des 40 millions de personnes primo-vaccinées sur une population de 67 millions. Vu d'ici, en tout cas, ça laisse un peu songeur.
J'allais rajouter que c'était effectivement, un des objectifs, hein, du chef du gouvernement, c'était d'atteindre cet objectif des 40 millions de primo-vaccinés en France. Et ça a été atteint, ça vient d'être atteint. Et puis, pour revenir aussi sur ce que vous venez de dire, c'est important, encore une fois, au-delà de l'aspect, j'allais dire, législatif et sanitaire de ce qui est en train de se passer avec l'obligation et vaccinale, il y a un besoin d'acceptabilité du changement. Et d'autant plus quand... ça touche aux libertés individuelles. Et je trouve qu'on est dans une phase, et là je prends un peu une casquette peut-être plus de communicant que d'analyste, on est dans une phase où on voit vraiment que le gouvernement essaie de faire vraiment attention à ça. C'est-à-dire qu'il essaie vraiment de faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs de communication qu'on avait pu voir au début de l'épisode Covid. Et par exemple, très rapidement, le Premier ministre Castex a dit que si sanctions devaient s'appliquer, on allait laisser un temps de latence d'une semaine avant, entre l'introduction de l'obligation du pass sanitaire et les sanctions. Donc on voit bien vraiment que, encore une fois, au-delà de l'aspect sur le fond de ce pass sanitaire, des débats, etc., on a un gouvernement qui veut essayer d'avoir une rentrée de septembre la plus, j'allais dire, apaisée possible. Et je trouve que ça va être intéressant de voir comment, justement, ces manifestations, elles vont ou pas s'intensifier, ou bien le ballon de baudruche va progressivement s'atténuer jusqu'au pic de calme normalement qu'on observe autour du 15 août.
D'accord. Nathanaël, à un pass sanitaire tel qu'il vient d'être voté en France, il n'y a pas d'équivalent en Europe, il y a des choses qui ressemblent mais qui vont aussi loin, c'est complètement inédit. Hein.
La France est effectivement pionnière dans ce pass sanitaire, en tout cas dans la manière dans laquelle il est élaboré et déployé en France. Ce qu'on a un petit peu en chapeau, c'est évidemment la volonté d'avoir un pass sanitaire européen. Le problème, c'est qu'on a évidemment des désaccords entre le Parlement, on va dire, et les pays membres. Il y a vraiment, j'allais dire, trois sujets qui font que je suis pas sûr qu'on soit déjà prêt de voir dans les prochains jours un pass sanitaire européen. D'abord, il y a la question des frontières. Ça veut dire qu'il va falloir aligner à la fois la mise en place d'un pass sanitaire et les décisions sur les frontières, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment le pass sanitaire vous permet d'accéder à n'importe quel autre pays de l'Union européenne sans qu'il y ait d'impact sur votre droit de traverser les frontières, c'est-à-dire est-ce que Schengen va encore être mis à mal et donc en fait le pass sanitaire va s'avérer un petit peu inefficace parce qu'il vous permettra pas de voyager parce qu'une décision sera prise que les ressortissants français pourront pas aller en Allemagne ou autre situation, ça c'est la première difficulté, c'est ces voyages des détenteurs de passe sanitaire sans restriction en Europe. Ensuite, c'est effectivement à partir de quel moment on met en œuvre ce passe sanitaire parce qu'on est sûr qu'on a une couverture vaccinale suffisante en Europe. C'est à partir de quel moment on décide d'ouvrir les vannes parce qu'on sait qu'on a atteint, alors je ne sais pas si on peut parler de l'immunité de masse, mais on a atteint une population assez importante couverte par le vaccin pour diminuer le risque de clusters et d'autres mouvements de nouveau qui entraîneraient une hausse des contaminations. Et puis le dernier élément, c'est la question du financement en fait des tests pour les personnes non vaccinées, c'est-à-dire que qui va prendre ça en charge dans le cadre où vous permettez aux voyageurs détenteurs d'un pass sanitaire de voyager. C'est aussi une question, voilà, c'est à partir de quel moment c'est la responsabilité de l'Europe ou d'un État membre. Donc la France est à la fois en avance sur le déploiement, sur la conception de ce pass sanitaire, mais je ne suis pas sûr non plus qu'on soit prêt de voir dès demain une initiative comme ça, semblable, supranationale, qui s'appliquerait dans l'ensemble de l'Europe. Et puis je pense que ce qui est un peu derrière la tête des dirigeants européens, c'est quand même la crainte du variant Delta.
Très bien, merci Nathanaël pour ce point sur le pass sanitaire. Andy, dis-moi oui.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau du groupe Rita Mitsuko et qui s'intitule Andy. J'en profite au passage pour vous dire qu'il y a quelques minutes seulement, l'Australie a encore gagné une médaille de plus à la natation, une médaille de bronze cette fois-ci dans le cadre du relais 4x200m nage libre chez les femmes. Une épreuve à l'issue de laquelle la Chine s'impose en battant le record du monde. On se retrouve pour notre part samedi à 13h pour une nouvelle émission en direct. Et puis d'ici là, vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur notre appli SBS Radio ou sur votre service de streaming audio préféré. Il suffit pour cela de vous abonner à notre chaîne SBS French. Passez tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.